Mon époque, le Move, ma radio.
La République, oui, la République.
Je vous demande de vous arrêter.
La République du Move, une émission de la rédaction.
Non, 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 vous avez déjà posé 10 questions.
Présentée par Benoît Bouscarel.
Non, je ne me calmerai pas.
Mais c'est pas insupportable à la fin. Mais vous voyez... parler, oui.
La crise politique en Italie, est-ce que c'est vraiment une crise? Est-ce que ça va toucher l'économie? Est-ce que l'Europe a du souci à se faire? Est-ce que Berlusconi va revenir aux affaires? On répond à toutes ces questions et à d'autres avec notre invitée Marianne Matar-Bonucci. Bonsoir.
Bonsoir.
Historienne, spécialiste de l'Italie contemporaine et prof à Paris 8. On sera également en ligne avec Anaïs Feuga, correspondante permanente du MOVE à Rome. Bonsoir Anaïs. Et à tout à l'heure, on parlera également dans cette République du Move de notre identité numérique et de la bonne façon de la protéger. Et avant ça, on détaille les nouvelles mesures annoncées cet après-midi par Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre, en faveur notamment des jeunes. Bonsoir Benjamin Hilly.
Bonsoir Benoît Bouscarel.
Benjamin Hilly de la rédaction du Move en direct de l'hôtel Matignon. Tu as passé une partie de la journée avec le Premier ministre Jean-Marc Ayrault qui a fait...
Toute la journée, oui.
Non, une partie j'ai dit. Jean-Marc Ayrault qui a fait une série d'annonces tout à l'heure à la mi-journée pour lutter contre la pauvreté, des annonces qui concernent notamment les jeunes.
Oui, et notamment cette annonce concernant le RSA qui sera revalorisé de 10% d'ici 2017, de 2% dès septembre 2013. Il devra revenir progressivement à 50% du SMIC sur 10 ans. L'UMP parle déjà de politique de l'assistanat. On peut aussi évoquer la hausse du plafond de ressources pour accéder à la CMU. Aussi la création en 2013 de 4000 nouvelles places dans les centres d'accueil de demandeurs d'asile et de 4000 places d'hébergement d'urgence. Les associations ont demandé 20 000. Ce qu'il y a de moins concret, Benoît, dans ce discours qu'a réalisé Jean-Marc Ayrault, c'est cette garantie universelle des risques locatifs. Une garantie promise par l'État pour lutter contre les discriminations à l'entrée dans le logement, notamment quand on est travailleur pauvre, notamment quand on est jeune et parfois quand on est les deux, travailleurs pauvres et jeunes. Une garantie annoncée, mais aucun calendrier. Ici à Matignon, on nous dit qu'il faudra attendre au moins un an de réflexion pour y voir un peu plus clair sur ce point. Autre annonce qui demandera un peu de patience, cette garantie jeune que le Premier ministre surnomme le contrat rebond, il vient de me dire ça, le contrat rebond. Objectif, toucher 100 000 jeunes en difficulté par an qui vont aussi toucher une allocation équivalente au RSA, 450 euros. Mais pour ça, il faudra signer un contrat, Benoît.
J'annonce ici la mise en œuvre d'une garantie jeune. Dès la rentrée de septembre 2013, il s'agira d'un contrat d'un an renouvelable qui sera signé entre le jeune en grande difficulté d'insertion et le service public de l'emploi, précisant les engagements de chacun. L'institution s'engagera à offrir aux jeunes un accompagnement soutenu. Un travailleur social identifié devra établir avec lui un projet d'insertion et lui faire régulièrement des propositions adaptées de formation ou d'emploi, dont bien entendu les emplois d'avenir et les contrats de génération. De son côté, le jeune signataire sera tenu de respecter les étapes programmées du parcours et d'accepter les propositions adaptées qui lui seront faites. Il bénéficiera alors, pendant ces périodes d'inactivité, d'une garantie de ressources d'un niveau équivalent au RSA.
Voilà pour les détails de ce contrat rebond annoncé aujourd'hui par Jean-Marc Ayrault. Alors ce soir, il y a eu une réaction de l'UNEF à ces annonces, le principal syndicat étudiant, qui parle de mesures insuffisantes pour les jeunes. C'est une occasion, écrit l'UNEF dans un communiqué, qui a été manquée d'étendre le RSA au moins de 25 ans. Écoutez le président du syndicat UNEF, Emmanuel Zemmour.
Qu'on lève la discrimination à l'âge et qui fait qu'aujourd'hui, quand on a moins de 25 ans, a priori, sans autre raison que cela, on est exclu des minima sociaux et exclu du droit commun, c'est-à-dire le RSA, c'est-à-dire les allocations chômage, c'est-à-dire aussi la possibilité de cotiser pour les retraites lorsqu'on est un jeune en formation. C'est tout cela qu'on demande, c'est tout simplement qu'on arrête de discriminer toute une partie de la population parce qu'elle n'a pas l'âge qu'il faut.
Évidemment, il y a eu aussi des réactions politiques à cette série d'annonces. Christian Jacob, pour l'UMP, a dénoncé le retour à l'assistanat. Et puis le parti de gauche a dénoncé ce plan de lutte contre la pauvreté, qualifié de misérable aumône de Noël faite aux bénéficiaires du RSA. Benjamin, demain sera présenté en Conseil des ministres le contrat de génération. Alors là, c'est encore autre chose. C'est la mesure phare du quinquennat de François Hollande pour l'emploi des jeunes, évidemment. Tu n'as pas pu t'empêcher, je le suppose du moins, de poser quelques questions là-dessus au Premier ministre, avec qui donc tu as passé la journée.
Oui, évidemment. Il en a parlé lui-même, en fait. Le contrat de génération, c'est un peu une obsession au gouvernement. On en parle depuis la campagne. Le contrat de génération, finalement, il n'a pas beaucoup bougé par rapport à ce que annonçait François Hollande pendant la présidentielle. Ce contrat de génération, il va concerner essentiellement les jeunes de moins de 25 ans et les seniors de plus de 55 ans. L'idée, c'est une belle idée, comme dit François Hollande, c'est de donner un emploi, un CDI à un jeune, et puis de maintenir dans l'emploi un senior. Ce contrat de génération, il va coûter 1 à 2 milliards d'euros sur 2 ans, me dit Jean-Marc Ayrault. Il hésite un peu, il n'est pas tout à fait sûr du chiffre.
1 à 2 milliards d'euros, c'est ça ?
1 à 2 milliards d'euros sur 2 ans, sachant qu'ils veulent en signer 500 000 d'ici 2017, donc ça devrait quand même coûter plus cher, puisque c'est une mesure qu'il faut mesurer à l'échelle d'un quinquennat.
Ça fait une belle différence entre 1 et 2 milliards d'euros. Il y a 1 milliard d'euros d'écart.
Mais je crois qu'il va devoir travailler un petit peu ses chiffres et que dans les jours prochains, on aura un chiffrage plus précis.
Benjamin, un peu de respect pour le Premier ministre, voyons. Merci. Merci à toi.
Je suis à Matignon encore, figure pas, donc il faut que je parle bas.
Merci Benjamin Elie de la rédaction du Move. On quitte la France quelques minutes maintenant dans la République et on part au pays de Berlusconi.
La République du Move avec Benoît Bouscarel.
J'ai passé presque 20 ans dans les tranchées de la politique. 20 ans, c'est énorme, car la politique est dramatiquement difficile. Et comme je me lie facilement d'amitié, je suis ami avec de nombreux acteurs de l'histoire politique internationale de ces 20 dernières années, et je leur ai souvent posé cette question: quel a été le jour le plus heureux de ta longue carrière politique? Et tous, je me souviens en particulier de Bush, Blair, Aznar et Schröder, m'ont répondu: le dernier jour.
Et c'est Anaïs Feuga qui nous accueille à Rome. Bonsoir.
Bonsoir.
Correspondante, ça y est, cette
bon
fois.
Bon dans l'histoire, là.
Entendu, ouais. Correspondante permanente du Move dans la capitale italienne. Anaïs, on vient d'entendre Berlusconi dans une déclaration au moment de son départ du pouvoir. Ouais. C'était l'an dernier. En fond sonore, là, c'est des Italiens qui le traitaient de bouffon quand sa voiture avait quitté pour la dernière fois le palais présidentiel. Est-ce que l'annonce de son retour dans la vie politique est une surprise, a constitué une surprise en Italie?
Bon, alors écoutez, déjà, il n'y a pas de manifestation de rue, là, comme il y a eu au moment de son départ. Évidemment, les Italiens sont plutôt... ils sont un peu dépités, en fait. Et puis, bon, son retour dans la vie politique, il faut nuancer, hein, il n'est pas encore aux affaires. Il se lance dans une campagne électorale, c'est quand même bien différent. On le sentait venir, là, la campagne électorale devait se lancer de toute manière, même s'il n'y avait pas eu la démission de Monti. Le Parti démocratique à gauche avait fait ses primaires, vous avez entendu parler du maire de Florence, Matteo Renzi, bon, qui a été battu, mais ça avait mobilisé bien les foules, et puis donc à droite, le Peuple, la Liberté, le parti de Berlusconi, s'apprêtait lui aussi à faire des primaires, jusqu'à ce que Berlusconi décide que finalement non, ils avaient trouvé personne et il y allait tout seul, alors que le 24 octobre, c'est quand même pas si vieux, il avait dit qu'il se retirait par amour de l'Italie, de la vie politique, etc. Donc ça fait quelques semaines qu'il y a ces va-et-vient, je viens, je me retire, non finalement j'y vais. Donc l'entrée de Berlusconi en campagne n'est pas vraiment une surprise.
En même temps, il part pour gagner, hein. Tu disais tout à l'heure, il n'est pas encore élu, mais lui il y va franco, il dit voilà, j'y vais, c'est pour gagner.
Oui, alors, bon, évidemment, c'est ce qu'il dit puisqu'il est en campagne électorale, mais objectivement, il n'a aucune chance de gagner, enfin, ou alors énorme coup de théâtre. Il faut quand même savoir que là, pour l'instant, dans l'état actuel des choses, son parti, le Peuple de la Liberté, a 15% des intentions de vote. 15%, c'est le troisième parti d'Italie, hein, après le Parti démocratique qui est donné large vainqueur et qui a plus de 30% dans les sondages, et le parti du comique Beppe Grillo, là, le parti sur Internet qui est anti-parti, qui, lui, a 18% dans les sondages. Donc le parti de Berlusconi, pour l'instant, il est à 15%. Donc Berlusconi va pour gagner, mais surtout pour se faire élire lui, pour bénéficier d'une immunité parlementaire. Mais objectivement, on ne peut pas penser qu'il a vraiment l'intention de gouverner à nouveau l'Italie.
On va développer un peu sur Berlusconi tout à l'heure. Également avec nous en studio, donc Marianne Matar-Bonucci, spécialiste de l'Italie contemporaine, historienne et prof à Paris 8. Anaïs Feuga nous disait les Italiens sont dépités. Vous le sentez aussi comme ça ?
C'est difficile de parler des Italiens. Ce qui est clair, c'est que les soutiens de Berlusconi se sont quand même affaiblis considérablement. La correspondante le rappelait, effectivement, pour le moment, on lui donne entre 15 et 18%. Bon, il faut peut-être pas sous-estimer quand même la dynamique d'une campagne à venir. Il est très très bon en campagne électorale, hein, il l'a déjà montré par le passé, mais reste que ça semble quand même pour le moment très très difficile, effectivement, qu'il puisse l'emporter.
Alors on va parler, si vous le voulez, du bilan de Mario Monti, qui a annoncé dans la foulée donc du retour de Berlusconi. En fait, Berlusconi a lâché Monti et Monti, dans la foulée, a démissionné ou a annoncé qu'il allait démissionner après le vote du budget. Est-ce qu'il a un bon bilan? Est-ce qu'on peut dire qu'il a sauvé, au moins temporairement, l'Italie?
Alors, la question du bilan est importante parce qu'évidemment, Berlusconi va faire campagne contre le bilan. Il a déjà commencé à le faire de Mario Monti, qui présente comme étant l'homme de Merkel.
Il dit que c'est une politique germano-centrée.
Voilà, au service d'une politique effectivement germano-centrée. Alors, ce bilan, qu'est-ce qu'on peut en dire? Déjà, son premier mérite, ça a quand même été de mettre fin, de contribuer à mettre fin au système Berlusconi. Il a restauré une forme de stabilité en Italie, il a restauré la confiance des marchés. Hein, il a, en partie aussi, il est arrivé au pouvoir grâce aux marchés. Plus important peut-être, il a restauré non pas l'image de la politique, puisque lui-même n'est pas un politique au départ, hein, on a parlé d'un gouvernement technique, mais une certaine image quand même de la chose publique qui a beaucoup souffert en Italie pendant les 9 ans de pouvoir de Berlusconi. Il a fait voter des mesures ou des lois importantes contre l'évasion fiscale, par exemple, contre la corruption, récemment. Il a bien sûr mené la politique pour laquelle il avait été mandaté, qui est une politique de réduction du déficit budgétaire. Alors après, là, on peut porter des appréciations positives ou non sur le bien fondé de cette politique. Mais par exemple, il a fait adopter une loi pour retarder le départ de l'âge à la retraite.
La question, c'est de savoir comment les Italiens le vivent,
justement,
en fait. C'est ça le problème. Parce que Berlusconi, est-ce qu'il va avoir des leviers? Est-ce qu'il va avoir des moyens en disant ça a été un peu catastrophique pour la vie quotidienne?
Il a fait avaler une potion amère, indéniablement, aux Italiens. Et il est clair que pour cette raison-là, il n'est pas très populaire. Il a quand même 43% d'opinion favorable, ce qui n'est pas mince, hein, compte tenu de cette politique un peu difficile qu'il a mise en œuvre. Par ailleurs, comme il n'est au pouvoir que depuis un an, la situation économique ne s'est pas sensiblement améliorée. Le chômage a continué à augmenter. Les déficits ont continué à se creuser. Donc ça, ça donne des arguments, évidemment, à ses détracteurs.
Anaïs Feuga, à Rome, est-ce qu'on vit plus mal en Italie maintenant ou...
Non, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que effectivement, le chômage a augmenté, et en particulier le chômage des jeunes, qui était de 29% il y a un an et qui est maintenant à 36%. Le déficit public s'est aggravé, le pourcentage de la dette est passé de 120% à 126% du PIB. On est dans le sixième trimestre consécutif de récession en Italie. Ouais. Alors on nous dit la reprise est prévue pour 2013, c'est ce qu'a toujours dit Mario Monti. Là, on nous dit que ça sera plutôt fin 2013. Donc effectivement, tout ça va donner du grain à moudre à Silvio Berlusconi. Ce qui est quand même drôle, c'est qu'il faut dire que le fameux 24 octobre, quand Silvio Berlusconi a dit qu'il se retirait de la vie politique par amour de l'Italie, il avait été assez élogieux sur le travail du gouvernement de Monti en disant, alors je le cite, lui et ses collaborateurs ont fait ce qu'ils ont pu, c'est-à-dire beaucoup étant donné la situation institutionnelle. La direction réformatrice et libérale a été en substance claire. Enfin, il a été assez élogieux. Et puis là, maintenant, évidemment, il est en campagne électorale et il va... il va dire que ce qu'a fait Monti, c'était pas bien.
Ouais, évidemment.
Il n'est pas à une contradiction près, puisque son parti, qui a soutenu depuis un an Mario Monti, va encore voter le budget là avant Noël, avant de
rentrer vraiment dans le vif et dans le dur, quoi. Alors les élections à partir du mois de février, entre le 10 février et le 10 mars, d'après le fonctionnement politique italien. Alors c'est un peu compliqué à ce niveau-là de la discussion. Il faut peut-être faire un point sur ce système politique qui est un peu particulier pour nous en France. On a du mal à le comprendre. Marianne Matar Bonucci, il y a des alliances, c'est ça? Berlusconi soutenait Monti jusqu'à maintenant. Non, c'est ce que vient de dire Anaïs.
Enfin, il n'est pas si compliqué que ça, en ce sens que là, il y a simplement des élections anticipées parce qu'il y a une crise. Alors, ce qui est plus compliqué, effectivement, c'est que depuis 1992, ce qu'on a appelé Tangentopoli, l'opération main propre en Italie, c'est-à-dire ce tremblement de terre politique qui a véritablement détruit le système politique précédent. Bon, il y a une certaine instabilité avec un parti, donc Berlusconi est entré en politique donc, en 1992. 1994, a créé son propre parti Forza Italia, qui peu à peu est devenu le noyau d'un grand parti de droite qui existait, qui était le peuple donc de la liberté, le Popolo della Libertà. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis que Berlusconi a quitté le pouvoir, eh bien effectivement ce parti qui existait en grand, alors qui avait absorbé notamment Alleanza Nazionale, et qui était le parti issu de l'ancien mouvement social italien, donc un parti de droite. Et c'est en fait Berlusconi qui tenait véritablement ce parti. Hein. Et depuis qu'il a quitté le pouvoir, eh bien le parti a quand même perdu un nombre très important de soutiens. Donc aujourd'hui, quelle serait la force avec laquelle Berlusconi est susceptible de s'allier? C'est la Ligue du Nord. La Ligue du Nord qui est, je crois, à autour de 6% dans les sondages, qui est un parti de droite, xénophobe, fédéraliste, très particulier, hein, qui a effectivement, lui, une assise territoriale dans le Nord, mais qui a aussi été considérablement affaibli du fait d'un certain nombre de scandales. Il faisait campagne autour de l'anticorruption et son propre leader, Bossi, a lui-même été victime d'affaires, de scandales.
Est-ce que Mario Monti, Anaïs, peut redevenir, après sa démission et après les élections, président du Conseil? Est-ce que c'est possible et est-ce que sa ligne politique pourrait avoir évolué entre-temps?
Bah, pour poursuivre, si je peux me permettre, effectivement, le système n'est pas aussi clair qu'en France, où on a vraiment un bipolarisme. On a la droite, la gauche, on sait en gros où va le gouvernement et le Parlement. En Italie, c'est vraiment le jeu des coalitions, surtout qu'on va voter avec la même loi électorale qui est un peu bancale et qui fait que les partis sont obligés de s'allier avec d'autres partis. Donc, a priori, si tout reste en l'état et... Effectivement, Berlusconi est très capable de faire une très bonne campagne en 2 mois. Hein. Il ne faut pas le sous-estimer. Mais si ça reste en l'état, le Parti démocratique serait majoritaire à la Chambre, mais pas au Sénat. Donc vous voyez qu'on va avoir une situation pas très claire. C'est possible que Mario Monti revienne dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'on ne trouve personne qui maintienne le pays et donc on va chercher de nouveau le sauveur. Ou alors Mario Monti se fait rentre dans la campagne électorale autour d'un espèce de centre démocrate chrétien qui essaye de se reformer. Ou alors on évoque encore Mario Monti possiblement à la place du président de la République, dont le septennat arrive en fin de mandat aussi.
Giorgio Napolitano, hein, qui doit remettre effectivement son fauteuil bientôt. Est-ce que la situation politique peut évoluer, même avec Monti encore au pouvoir dans quelques mois?
Oui, la situation peut évoluer parce que la situation économique aussi risque d'évoluer.
Est-ce qu'il peut faire une politique forcément... un peu plus sociale? C'est ça le sens de la question.
Écoutez, ça, je suis historienne, hein, donc je regarde plutôt le passé, en l'occurrence, que l'avenir. Donc je ne me lancerai pas sur ce terrain-là.
Le passé mais est le bon est moyen sûr, de connaître l'avenir.
Ce qui est sûr quand même, c'est qu'il y a un développement de l'antipolitique à l'heure actuelle en Italie. Et je crois que les gouvernants ne peuvent pas ne pas en tenir compte. Donc peut-être effectivement infléchir quand même une politique économique.
En quelques mots maintenant, puisque le temps presse, on va parler de ce personnage incroyable, Berlusconi, on va s'arrêter quelques instants dessus. Hein. 76 ans, 6 tentatives pour arriver au pouvoir, il y est arrivé plusieurs fois. Toujours aussi lifté, enfin de plus en plus, les implants bien droits, les dents bien toutes refaites. Il revient pour l'immunité, c'est tout?
Peut-être pas. Il revient effectivement parce qu'il a un certain nombre d'affaires sur le dos, donc pour se protéger de la justice. Peut-être,
3 affaires en cours. Hein.
Oui, aussi pour renflouer peut-être son parti politique qui, sans lui, n'est pas grand-chose, par goût du pouvoir vraisemblablement, et parce qu'il pense avoir toujours une forme de charisme et d'ascendant sur les Italiens.
Est-ce que ça peut être le combat de trop, Anaïs, peut-être, à Rome?
Il y a beaucoup de gens qui le pensent ici en Italie. Moi, en discutant avec les Italiens de la rue, alors évidemment, c'est pas forcément représentatif, mais enfin, il y en a qui me disent on espère que cette fois, il va se rendre compte qu'on n'a plus envie de lui. Même beaucoup d'Italiens qui ont voté Berlusconi en 94, quand il incarnait le renouveau, pensent que maintenant, il a fait son temps.
Voilà ce qu'on pouvait dire de la situation en Italie ce soir. Évidemment, on suivra ce qui va se passer d'ici aux élections du mois de février, au février-mars, on verra. Merci Marianne Matar-Bonucci. Merci aussi à Anaïs Feuga, correspondante permanente de Radio France à Rome. On passe à tout à fait autre chose maintenant.
La République du Move avec Benoît Bouscarel.
Et on est en ligne avec Olivier Roumieux. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Chef de la bibliothèque numérique de la Cité des Sciences. Vous publiez sur Internet un dossier très intéressant sur le site de la Cité des Sciences. Un dossier sur la nécessaire attention que l'on devrait tous porter à notre identité numérique. Le titre de ce dossier, c'est « Ces dangers qui menacent nos identités numériques ».
Oui, le mot attention, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, je trouve que c'est un mot important. On a un titre qu'il faut prendre un peu au second degré, c'est-à-dire que on n'est pas si noir que ça, hein. Internet c'est une chose formidable, il faut. Mais effectivement, le message principal, c'est tout ce qu'on fait en ligne, ça mérite un petit peu de temps, un peu d'attention pour voir un petit peu toutes les traces qu'on peut laisser un peu partout.
Ouais, c'est ça, en fait on a l'impression que tout le monde a une conscience un peu diffuse du fait qu'il y a un risque, mais on agit très peu pour se protéger finalement.
Voilà, alors qu'on ait une conscience diffuse, c'est tout à fait normal puisque c'est très très compliqué. Si c'était simple, il n'y aurait aucun problème. Mais effectivement, on est face à un environnement très très difficile à appréhender, et le fait qu'on laisse nos traces plus ou moins volontairement. C'est-à-dire que il y a des traces qu'on laisse involontairement, c'est toutes les traces qu'on laisse lors de notre navigation. Alors ça, on peut les contrôler, mais c'est vrai que c'est un peu réservé à l'apanage de geeks, enfin, et de gens très sensibilisés. Et puis il y a des traces qu'on aime laisser aussi, et sur lequel je dirais qu'on est volontaire pour les laisser. Et là, il faut faire beaucoup, faut faire attention.
Comme les photos de cuite sur Facebook ou les choses comme ça, quoi.
Exactement. C'est comme on dit in real life, IRL, c'est-à-dire que quand vous vous adressez à quelqu'un, ou tout de suite vous le tutoyez pas, vous il y a tout un tas de règles dans la vie réelle. Et ben dans la vie virtuelle, c'est pareil. Il faut toujours réfléchir.
Ouais. Vaut mieux faire gaffe, hein, parce que tout est connecté pour le meilleur et pour le pire, quoi.
Voilà. Alors, ce que vous dites aussi, c'est l'interconnexion. Ça, c'est très important. C'est ce qu'on a identifié. Ouais. C'est qu'effectivement, on n'est plus dans des mondes de silos, si vous voulez, où vous inscrivez à tel site, etc., etc., et vous arrivez à contrôler. C'est-à-dire qu'on sait que par les, évidemment, par Google au premier chef, mais il n'y a pas que lui, mais tous les services sont intégrés. Pour notre plus grand bien, évidemment, puisque c'est ça qui va nous faciliter le travail au quotidien, que vous allez retrouver vos photos de Picasso à un endroit, etc. Mais ce croisement comme ça des différents services, ça donne évidemment matière à plus à exploiter plus vos données et à menacer un petit peu quelque part votre vie privée.
En fait, vous nous dites qu'il faut savoir comment marche Google, comment marchent les sites sur lesquels on va, comment nos traces sont conserver, comment on est espionné, comment aussi on peut se défendre.
C'est difficile de savoir dans le détail comment ça fonctionne, parce que même les spécialistes suivent ça, c'est leur boulot tous les jours. Donc il faut trouver un niveau minimal, je dirais, d'éducation. Et nous, on considère qu'à la bibliothèque, c'est notre rôle, si vous voulez. On n'est pas journaliste, mais par les sources qu'on possède et par les sources en ligne, notre sélection, c'est d'aiguiller nos lecteurs et nos internautes, je dirais, vers un certain savoir-vivre en ligne, quoi. En fait, on ne va pas exiger des gens qui deviennent des spécialistes de Google et des moteurs de recherche.
Il pourrait y avoir, Olivier Roumieux, des cours de sensibilisation dans les lycées, je ne sais pas, par exemple
dans les lycées, et je m'excuse, mais dans les bibliothèques également, puisqu'en fait, c'est vraiment pour nous un rôle de passeur du savoir, de pouvoir aider les gens à mieux naviguer dans ce, entre guillemets, nouvel espace, parce que maintenant, il n'est plus tellement nouveau.
Il n'est plus tellement nouveau, ouais.
Voilà, de l'Internet.
Merci à vous. L'adresse sur laquelle on peut retrouver votre dossier, qui est très bien fait, qui est très complet, c'est cité-science.fr. Merci Olivier Roumieux, patron de la bibliothèque numérique de la Cité des Sciences. La République du Move revient demain, 18h sur le Move, et il sera question du contrat de génération. On en parlera avec Thierry Repentin, ministre délégué auprès du ministre du Travail. Bonne soirée sur le Move, il est pile 18h30 et voici la Morinade.